Vous êtes sur RTL.
Il est 9h.
RTL Matin.
Stéphane Carpentier.
Et à 9h, toute l'actualité, c'est avec Agnès Bonfillon. Bonjour Agnès.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Le confinement semble inévitable pour éradiquer le coronavirus.
Souvenez-vous, Singapour était présenté comme l'élève modèle qui avait réussi à ne pas demander aux habitants de rester chez eux, notamment grâce au traçage, au dépistage systématique. Eh bien, résultat, la République fait face à une deuxième vague de contamination et cette fois... plus le choix. Écoutez le Premier ministre, Lee Hsien Loong.
Le nombre de contaminations dans la population a augmenté. Beaucoup de ces cas ne sont pas liés. Nous ne savons pas comment les patients ont été infectés. Ce qui veut dire qu'il y a encore des gens qui diffusent le virus. Et c'est pour cela qu'il faut un confinement de tous pour stopper l'épidémie. Les semaines à venir vont être difficiles. La situation va empirer avant de s'améliorer. Avant que le soleil revienne et brille à nouveau sur nous. S'il vous plaît, restez chez vous.
Le confinement chez nous mardi, cela fera exactement 3 semaines qu'il a été instauré. Emmanuel Macron devrait annoncer lundi sa prolongation car le bilan reste très lourd. Vous le savez, 13 000 morts, dont un enfant de 10 ans qui visiblement souffrait d'autres pathologies. Le seul point positif, c'est qu'on observe une... très légère baisse du nombre de patients en réanimation depuis 2 jours. Bonjour Jacques Serret.
Bonjour.
Est-ce que cela veut dire qu'on atteint un plateau et que l'on peut faire une projection sur la sortie du confinement ?
Non, c'est pour le moment impossible. En fait, cela va surtout dépendre des mesures qui pourraient être prises. Oui, il semble que nous soyons arrivés au fameux plateau. Mais il faut désormais amorcer la descente. Et malheureusement, avec le coronavirus, la descente est lente, très lente, selon les spécialistes. Pour le professeur Renaud Pirou de la Pitié-Salpêtrière, il faut regarder ce qu'il se passe en Italie. Après un mois de confinement, le nombre de nouveaux cas admis en réanimation est 20-25% inférieur au maximum, ce qui est relativement peu et qui présage d'un épisode très long.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ?
Selon ce professeur, il faudrait donc, avant de faire des projections sur la sortie du confinement, eh bien, renforcer les mesures de protection. Il faut faire plus. Par exemple, que les malades qui sont confinés chez eux puissent obtenir des masques en pharmacie. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, puisque les masques sont réservés au personnel soignant. D'autres pistes évoquent la possibilité que ces malades disposent de chambres d'hôtel afin d'éviter les contaminations intrafamiliales. Si l'on ne veut pas attendre des semaines, voire des mois, ces mesures s'imposent, selon le professeur Pierrot. Si on ne les prend pas, le risque serait que l'épisode dure longtemps et que sous la pression sociale, le déconfinement s'opère et que l'épidémie repart de plus belle.
Merci beaucoup Jacques Serret pour ces précisions. Cela fait donc un mois ou presque, cela fera un mois mardi que nous sommes en confinement et nous parlons d'un léger ralentissement des admissions en réanimation. Une courbe qui commence à fléchir, c'est exactement ce qu'il se passe en région Rhône-Alpes-Auvergne. Le cap du millier de morts est franchi, mais on observe moins d'hospitalisations, Bertrand Frachon.
Oui, la tendance est à une petite baisse du nombre des hospitalisations en Rhône-Alpes-Auvergne. On en comptait hier 2950, soit 12 de moins que jeudi, mais pas d'excès d'optimisme avec encore 225 hospitalisations dans la région vendredi et 36 décès à l'échelon départemental. Cette fois, totalisant à ce jour 295 morts, le département du Rhône est le plus touché. Le Cantal, quant à lui, n'en déplore aucun. À noter que dans la métropole de Lyon, désormais on désinfecte le mobilier urbain d'une douzaine de sites parmi les plus fréquentés, notamment les abords des hôpitaux, comme l'explique Dominique Lemel, responsable de la propreté.
Alors, aux abords des hôpitaux, on nettoie donc tout ce qui est mobilier urbain, donc tout ce qui est potelé, abribus, les bancs, évidemment des abribus, tout ce qui est barrières ou autres, les corbeilles de propreté, et puis les stations vélo, parce que souvent, à côté de ces hôpitaux, il y a les stations Vélov. On les désinfecte avec des pulvérisations d'un produit qui est un virucide. Aucun impact sur l'environnement, c'est d'abord de très faibles quantités et c'est un virucide qui est utilisé dans la restauration collective et qui est dilué à 1,5%.
Et puis, heureusement, il y a toujours des initiatives positives, comme la bibliothèque de Pierre Latte qui offre ses livres aux résidents d'un EHPAD ou encore la société La Fuma dans la Drôme qui fait don de plusieurs centaines de fauteuils de relaxation pour le personnel soignant des hôpitaux, des fauteuils destinés aux salles de repos. Enfin, pour finir, de quoi alléger son confinement ? Selon notre confrère du Progrès, un habitant de l'Ain a gagné 5 millions d'euros. euros au loto cette semaine. Il devra conserver son précieux ticket et faire preuve d'un peu de patience, puisqu'aucun gain ne sera versé avant la fin du confinement.
C'est quand même pas mal. Bertrand Frachon pour RTL. Merci Bertrand. Le Premier ministre italien Giuseppe Conte l'a annoncé hier soir. Dans son pays, le confinement est prolongé jusqu'au 3 mai. L'Italie, qui est le pays le plus endeuillé au monde par l'épidémie, pour l'instant, 18 849 morts. Les États-Unis, touchés plus tard, se rapprochent de ce lourd bilan avec un nouveau record, 2100 décès en 24 heures et près de 500 000 personnes contaminées désormais dans tout le pays. Pour la fête la plus importante de la tradition chrétienne ce week-end, c'est sur écran que les fidèles suivront les messes. Une nouvelle fois, le pape depuis la place Saint-Pierre, vide, a célébré le traditionnel chemin de croix hier soir. Le souverain pontife a comparé les soignants morts du coronavirus à des soldats morts au front.
Vous restez bien avec nous, il est 9h05. Dans un instant, la suite du journal d'Agnès Bonfillon. On va vous expliquer que les salariés d'Amazon ne se sentent pas en sécurité face au Covid et même qu'ils assignent le groupe au tribunal. A tout de suite.
RTL Matin. RTL Matin. Stéphane Carpentier.
Et Agnès Bonfillon, bien sûr, la suite du journal à 9h07. Le géant Amazon est donc sommé de mieux protéger ses salariés en France.
Ah oui, de mieux les protéger contre le coronavirus. La CFDT a appelé à la grève dans les centres de distribution, de tri, de livraison depuis mercredi. De son côté, Sud Solidaire assigne carrément Amazon France au tribunal pour demander la fermeture pure et simple pendant l'épidémie. C'est ce qu'explique le codélégué du syndicat, Laurent Dégouzé.
Ça fait 3 semaines qu'on est en présence d'une situation sanitaire déplorable. On est passé, il y a plus de 15 jours de ça, à des salariés qui avaient les symptômes du Covid-19, puis à des salariés qui ont été testés positifs. Et désormais, l'un d'entre eux qui est en réanimation. Vous pouvez commander quantité d'articles sur le site qui ne sont pas, comme on le dit, essentiels à la vie de la nation. Donc vous allez exposer en plus inutilement la santé, voire la vie de ces travailleurs-là, mais aussi des personnes qui viennent vous livrer à domicile, en sachant que ce virus peut aussi survivre un certain nombre d'heures sur le carton. Donc on vous apporte en plus littéralement le virus à domicile. Mais surtout, les nombreuses images et vidéos qu'on a vues sortir le montrent, la distance de sécurité de 1 mètre est régulièrement cassée. Et pendant ce temps, Amazon ment en prétendant que « Non, non, mais nous, on fait mieux, c'est 2 mètres », alors que les managers eux-mêmes ne respectent pas cette distance, tout simplement parce qu'elle ne peut pas être respectée vu la nature de la tâche, de l'activité. Parfois, les plusieurs centaines de salariés qui se retrouvent au même moment sur le site.
Des propos recueillis par Alice Moreno pour RTL.
Alors ce confinement jour 26, ça rime en ce moment avec canapé. Vous écoutez beaucoup RTL bien sûr, mais vous regardez beaucoup les écrans. Les jeunes d'ailleurs n'ont jamais autant regardé la télévision.
Plus de 5 heures par jour. Alors attention, pas sur leur écran, sur leur smartphone, seul dans leur chambre, non. Dans ce contexte particulier, ils redécouvrent cette chose étrange, tiens donc, au milieu du salon, avec une télécommande à côté. Bonjour Isabelle Morini-Bosque.
Bonjour tout le monde.
L'objet donc redevient à la mode, Isabelle, et surtout, surtout, on regarde en famille.
Absolument. Alors, ils vont un peu plus sur les plateformes qu'avant, mais rien à voir avec le raz-de-marée attendu. Non, c'est bien la télé de papa qui regarde tous ensemble. Vous voulez un exemple récent avant?
Allez, un exemple récent.
La 7e compagnie, mon colonel.
Voilà, mais où est passée la 7e compagnie? Valérie est au bout de sa vie. 40 ans d'âge, 6 700 000 téléspectateurs. Et combien de jeunes, à votre avis? 5? 10%? Non! 34% des 15-24 ans sont devant et quasiment 37% des 4-14 ans, soit quelques 600 000 mouflets. Même topo pour la grande vadrouille ou les gendarmes. C'est simple, en 2019, 37% des 15-24 ans allument la télé. Cette semaine, quasiment 60%. Ils sont plus nombreux, ils la regardent plus longtemps. L'info, évidemment, le 20h de la 2 gagne 500 000 moins de 34 ans, celui de TF1, 800 000. Et le 19-45 d'M6, déjà plébiscité par les jeunes, en recense 50% en plus qui regardent tous ensemble en famille. Ces 15-34 ans sont aussi devant les programmes, éparpillés façon puzzle. 200 000 ados de plus pour Nagui. Et en soirée, on cite alors vraiment au hasard, plus 34% pour Koh-Lanta, plus 20% pour Pékin Express. Et surprise, plus 39% pour Top Chef. Alors que la cuisine, franchement, chez les jeunes, ça ne fait pas recette, si j'ose dire.
Ils mangent les McDo, mais ils s'intéressent à Top Chef.
Exactement, et des kebabs.
Alors donc, on l'a compris, Isabelle, ce sont surtout les émissions de divertissement, mais aussi les grands classiques du cinéma qui cartonnent.
Je ne vous le fais pas dire, absolument, vous avez tout compris. Eux aussi, les jeunes, ont besoin de réconfort. L'avantage des comédies, écoutez bien, rediffusées jusqu'à essorage, c'est qu'on connaît la fin. on ne s'angoisse pas. On peut donc profiter, en profiter. C'est rassurant comme le poulet du dimanche chez papa-maman. Les ados redécouvrent aussi l'écran de télé, l'objet écran de télé au milieu du salon. Être ensemble en famille, sous le canapé, fidèle au poste, devant ça par exemple.
Je viens d'apprendre que Michel, oui, il s'est fait renverser par une voiture hybride.
Sacré Michel, toujours à la pointe du progrès.
Scène de ménage. Les seniors sont raffolés par les juniors. 4 500 000 téléspectateurs jeudi soir, plus 30% chez les moins de 24 ans. Bref, les jeunes, la télé l'allume et c'est pas pour l'allumer. Pour l'instant, hein, pour l'instant.
Merci beaucoup Isabelle Morini-Bosque pour ces précisions et ces derniers chiffres. Hein. On les a, c'est tout chaud.
Vérifier avec Médiamétrie. Hein.
Être champion du monde du confinement, oui, c'est possible.
Mais oui, quoi de mieux qu'un nouveau challenge en ce moment, Valérie, je vous le demande, vu que vous me regardez.
Je m'attends à tout.
Ah oui. Depuis le 20 mars dernier, 1700 équipes de pays francophones s'affrontent à distance à travers des défis à la fois cocasse, écologique et solidaire. Alors évidemment, la base, c'est de rester chez soi. Et figurez-vous que c'est une habitante de Thonon-les-Bains, en Haute-Savoie, qui est actuellement en tête du classement. Clara Combernou mène son équipe avec talent, Serge Puyot.
Depuis deux semaines, Clara, 27 ans, et ses 6 copains et copines ne cessent de relever les défis lancés à 1700 équipes francophones engagée dans cette Coupe du Monde de confinement.
Beaucoup de défis ludiques, comme par exemple pêcher à la ligne depuis son balcon, ou encore des défis sportifs, faire un semi-marathon dans son jardin. Il y a aussi des défis culturels, rejouer la scène de Mary Poppins I'm singing in the rain chez soi. Il y a toute une série aussi de défis solidaires, comme donner son sang, cuisiner un repas et l'offrir à une association qui les donne au SDF, ou encore l'aide aux personnes âgées.
L'équipe de Clara est donc actuellement en tête de cette compétition.
Maintenant qu'on est dans l'engrenage des défis, j'ai envie de dire allons-y et gagnons. Voilà, ça nous permet de rester en contact entre copains, ça apporte un petit peu de légèreté aussi à ce quotidien malgré tout anxiogène.
Clara décrochera-t-elle la lune ? Réponse à la fin du confinement.
Serge Puyot pour RTL, on vous met les coordonnées du site sur notre propre site rtl.fr puisque visiblement ça vous intéresse Valérie.
Oui.
Et nous on pourrait aussi rejouer des scènes de films, non ?
Oui, on pourrait.
Bon ben je crois que je vais pas vous proposer le Dirty Dancing tout de suite, hein, voilà.
Ah non, alors voilà. Surtout pas.
D'accord, bah,
le porter avec vous, c'est pas simple l'histoire, si. Valérie a fait un cake pour les infirmiers cette semaine, figurez-vous.
Oui, pour Percy.
On n'a pas de nouvelles des infirmiers.